Les zones d'ombre de l'histoire.
Bien imprudents furent ceux qui, en 1991, ont pensé que l'histoire était écrite. L'Empire soviétique s'effondrait et du même coup disparaissait la partition du monde en deux blocs qui fut héritée de la Seconde Guerre mondiale. Le monde libre, ou plutôt libéral, avait triomphé et le communisme était presque vaincu. Pourtant, l'ancienne puissance de l'Union soviétique ne tenait-elle qu'à une idéologie ? On a cru voir en Mikhaïl Gorbatchev et Boris Eltsine le signe d'une disparition définitive de la volonté russe d'être une puissance dominante. Si l'on a cru que Vladimir Poutine avait simplement grandi dans l'ombre de Boris Eltsine et qu'il cultivait le même état d'esprit, force est de constater que ce n'est vraiment pas le cas. La seconde guerre de Tchétchénie, dont nous avons parlé dans notre précédente émission, était porteuse de signes qui auraient dû inciter à la plus grande prudence. Et pourtant, la main tendue à l'Ukraine coûte aujourd'hui très cher non seulement au peuple ukrainien, mais aussi à l'Europe qui se voit à son corps défendant entraînée dans un conflit pour l'instant indirect avec la Russie. Passera-t-on d'une confrontation indirecte à une confrontation directe ? Dans l'état actuel des choses, on ne voit pas ce qui pourrait amorcer une désescalade de la tension entre Moscou et l'Europe. Dans notre ultime volet consacré à Vladimir Poutine, je vous propose aujourd'hui de revenir sur les relations complexes entre l'Ukraine et la Russie et d'examiner aussi les points qui font que même si Boris Eltsine a contribué à l'ascension politique de Poutine, la posture de ce dernier est en totale rupture avec celle de son prédécesseur. On a souvent tendance à définir Vladimir Poutine comme l'homme fort de la Russie. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il est le produit d'un système et que son émergence politique relève d'une lutte entre différentes influences. Nous avons vu, à l'occasion de la deuxième guerre de Tchétchénie, que Poutine était à la fois l'homme des services de renseignement et de l'armée. Certes, il a grandi dans l'ombre des turpitudes du clan Yeltsin. Et durant la période de transition, de son arrivée au Kremlin en tant que Premier ministre jusqu'à sa victoire à l'élection présidentielle, il donne le sentiment de protéger Yeltsin. Et il le fait réellement, en signant notamment un décret mettant le clan Yeltsin à l'abri de toute poursuite judiciaire. Mais il s'agissait en fait de consolider un édifice très fragile pour que l'armée et le FSB puissent reprendre la main. D'ailleurs, rapidement, Poutine va s'en prendre à quelques oligarques, dont certains avaient contribué à son émergence, ceux-là même dont Boris Yeltsin avait favorisé l'ascension. Boris Berezovsky sera le premier à en faire les frais. Mais Mikhail Khodorkovsky ne va pas tarder lui aussi à être pris dans la tourmente. L'ancien PDG et actionnaire principal du groupe pétrolier Yukos, qui avait pu entrer dans le capital de cette société d'une manière douteuse durant la présidence Yeltsin, va payer très cher le fait d'avoir voulu associer des groupes pétroliers américains au développement de cette société. Après avoir passé plus d'une dizaine d'années en prison, il est aujourd'hui devenu l'un des opposants politiques de Vladimir Poutine. Il suivit en cela la même trajectoire que Boris Berezovsky. Il y a donc eu une reprise en main du monde des affaires par le pouvoir. Mais le maître du Kremlin a aussi misé sur le sentiment nationaliste et l'amertume des Russes face à l'effondrement de l'Empire soviétique. Le racisme anti-tchétchène, qui a permis à Vladimir Poutine d'obtenir le soutien d'une majorité de Russes lors du déclenchement de la seconde offensive en Tchétchénie, a été le socle d'un nationalisme plus global qui lui a permis d'incarner la posture de l'artisan d'une reconstruction de la Grande Russie. Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui souhaite son retour n'a pas de tête, a-t-il plusieurs fois répété. D'une certaine manière, Poutine incarne une figure politique qui se situe entre le tsar d'un côté et Andropov et Staline de l'autre. Mais où se situe-t-il exactement ? Lors de l'effondrement de l'Empire soviétique, l'Occident a pensé que son modèle de société était désirable pour les Russes. Il serait faux de dire que les fondements des sociétés occidentales n'exercent pas une attraction sur la population russe. Mais l'effondrement de l'URSS a d'abord laissé place à une quasi-anarchie libérale dont nous avons parlé dans nos deux premières émissions. Ce chaos s'est accompagné par un déclin du rayonnement de la Russie. Il n'est donc pas étonnant d'observer aujourd'hui une certaine nostalgie de l'URSS, un sentiment sur lequel Poutine a largement capitalisé. Mais surtout, dans sa volonté de reconstituer une nation forte, Poutine considère que les pays voisins doivent être une zone d'influence de la Russie. Et d'une certaine manière, une zone de protection de celle-ci. Poutine applique à cette zone géographique une sorte de doctrine Monroe. Tout comme les États-Unis ont longtemps considéré et considèrent encore l'Amérique du Sud comme leur chasse gardée, n'y tolérant que leur seule influence, le maître du Kremlin développe la même opinion à propos des pays entourant la Russie et en particulier de ceux qui sont en prise directe avec l'Europe. Dès 2007, il tient un discours expansionniste qui préfigure l'édification d'une grande Russie. Dans cet esprit, en 2012, un vaste programme de modernisation de l'armée est lancé. Preuve que le Kremlin avait déjà envisagé l'éventualité d'une confrontation militaire, en réponse aux visées européennes, notamment sur l'Ukraine. Le projet européen d'intégrer progressivement l'Ukraine dans l'Union s'est heurté frontalement à la démarche de reconstruction d'une grande Russie, et le Kremlin n'a de fait pas hésité à recourir à la force. Le déclenchement de la guerre il y a 2 ans constitue un fait majeur dans l'histoire contemporaine européenne. Le maître du Kremlin ne se sent plus tenu par les frontières héritées à la fois de la Seconde Guerre mondiale et de l'effondrement de l'URSS.
Становимся иноагентами. родину груз 200. Об этом не скажут вечерние вести. Закончил школу, бери автомат. До 15, антивоенный плакат. Русский корабль,
иди нахуй.
Танк в болоте, будущее на плахе. Культ победы, как основа основ. Кокаин депутатский с прахом дедов. Серости, садизма, лубянский микс. А для тех, кто пиздит, лаборатория X.
Мама, я в плену, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов. Мама, почему войну называют операцией специалистов?
Специалистов я не пойму.
Путину нравится ваше равнодушие.
Запад 10 лет поставляет ему оружие.
Именем Российской Федерации.
Нищета, убийства, приговоры, санкции.
Инакомыслие.
Независимое мнение.
Откуда на Беларусь готовилось нападение?
Грохнут не беда, отвалят бабла.
Для кого война, а для нас мать родна.
Все, дочка, мама любит тебя, пока. Красные ногти, земле рука.
Чудовищная весна решила настать. Измененная, ненужная конституция. Нам пора совершить революцию.
Пусть Москва горит,
мир на крови. Это не смыть, нечем крыть. Да хуя земли, но забрали Крым, прости.
Хотя это не простить.
Мама, я в плену, не смотри телевизор. Мама, здесь нет никаких нацистов.
Я тебя люблю.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine signe le décret de rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Il justifie ce que l'on peut qualifier d'annexion par l'écrasante majorité des habitants de cette région à s'être prononcé pour un rapprochement avec la Russie au cours d'un scrutin jugé plus que douteux par les observateurs extérieurs. Le coup de force de Moscou n'est pourtant pas une surprise. En septembre de l'année précédente, un conseiller du président russe avait déclaré que Moscou ne resterait pas sans réaction à toute tentative de rapprochement entre l'Ukraine et l'Europe. Pour comprendre la triangulation entre l'Ukraine, l'Europe et la Russie, il faut tout autant considérer les enjeux économiques qu'historiques, mais aussi la politique intérieure russe. L'idée de Novorossiya, par exemple, développée par certains conseillers de Vladimir Poutine, recouvre tout autant un aspect économique que des considérations socio-culturelles. Sur le plan économique, il s'agit pour le Kremlin de créer un grand espace d'échange pour contrebalancer l'Europe. Sur le plan socio-culturel, il s'agit de redonner à la Russie un pouvoir d'influence se situant entre l'ex-URSS et l'époque tsariste. Pour tenter de comprendre la démarche russe, il faut donc prendre en compte la question économique, mais aussi et surtout l'aspect historique des relations passées avec l'Ukraine. La Crimée a toujours été un enjeu majeur pour la Russie, qui par le contrôle de cette façade maritime s'assure un accès à la mer Noire et donc par la suite à la Méditerranée. Mais cette voie n'a pas seulement une fonction économique. Il s'agit pour la Russie, hier comme aujourd'hui, de pouvoir conserver une influence sur ce territoire en prise directe avec l'Europe. De nombreuses régions ou centres urbains de l'actuelle Ukraine furent sous contrôle russe ou soviétique dans les siècles passés. Au Moyen-Âge, par exemple, Kiev fut un temps capitale de la Russie. Intéressons-nous par exemple à l'Ukraine à partir de la Révolution de 1917. Jusqu'en 1945, le pays a un statut autonome au sein de l'URSS. Mais en 1945, Staline annexe le territoire et fait déporter une grande partie de la population tatare au motif d'une supposée collaboration avec les nazis. Cela provoque du même coup un nouvel équilibre démographique où les russophones deviennent majoritaires dans certaines parties du pays. S'agissant de la Crimée, ce n'est qu'en 1954 que la province fut rattachée à l'Ukraine. Mais les deux pays faisant partie de l'URSS, la région changeait juste de tutelle administrative. En 1991, le vote pour l'indépendance de l'Ukraine reçoit en Crimée un soutien plus que timide, la majorité russophone ne se reconnaissant pas vraiment dans cette volonté d'indépendance. Mais Kiev va répondre intelligemment à cette situation, en accordant à la Crimée un statut d'autonomie avec son propre parlement. Le parcours de Viktor Yanukovych, qui fut une figure importante du paysage politique ukrainien de ces 20 dernières années, est significatif. Il contribue à révéler la complexité des relations entre son pays et la Russie. Au début des années 2000, il fut gouverneur de la province de Donetsk, une région de l'Est assez proche de la Russie sur le plan culturel. Il sera une première fois Premier ministre, entre novembre 2002 et début décembre 2004. Fin 2004, il est élu président mais doit immédiatement renoncer à son mandat car son élection est largement contestée. Au terme d'une seconde élection, Viktor Yushchenko accède à la présidence. Un peu plus d'un an plus tard, Yushchenko, ne parvenant pas à constituer un gouvernement, se voit contraint de nommer Yanukovych Premier ministre. Du fait de l'excellent score que son parti, le Parti des Régions, a réalisé aux dernières élections législatives. Les deux hommes sont en accord sur un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne. Mais Yanukovych souhaite aussi que l'Ukraine se rapproche de la Russie. Et il est contre une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En cela, il est en opposition avec Viktor Yushchenko. Mais le 30 septembre 2007, à la suite d'élections législatives anticipées, Viktor Yanukovych démissionne. Trois ans plus tard, profitant d'une mésentente entre le président Viktor Yushchenko et sa première ministre Yulia Tymoshenko, Viktor Yanukovych remporte les élections présidentielles de 2010. Même si Yanukovych affiche une volonté de rapprochement de l'Ukraine tant avec l'Europe qu'avec la Russie, les accords de Kharkiv signés la même année avec Dmitri Medvedev amorcent une réelle proximité avec la Russie. Mais rapidement, Viktor Yanukovych affermit son pouvoir en réduisant le poids du Parlement et en augmentant considérablement ses prérogatives. La presse est de plus en plus muselée et plusieurs membres du gouvernement précédent sont inquiétés par la justice. D'abord assignée à résidence, Yulia Tymoshenko est emprisonnée, ce qui entraîne une crispation entre l'Union européenne et Viktor Yanukovych. Le fait qui va alors mettre le feu aux poudres, a-t-il été la seule œuvre de Viktor Yanukovych ou doit-on y voir la main du Kremlin ? En novembre 2013, le président ukrainien rejette l'accord de partenariat avec l'Union européenne et affiche sa volonté de renforcer les liens avec la Russie. La réaction populaire est immédiate et la place Maïdan est occupée par des milliers d'Ukrainiens qui réclament la démission de Yanukovych.
Oh, come on! in the USSR.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Le 22 février 2014, Viktor Yanukovych est destitué par le Parlement, qui dénonce au passage des violations des droits de l'homme. L'alternance politique est donc nettement pro-européenne. Mais le Parlement ukrainien va tenter une manœuvre qui aura de lourdes conséquences. En 2012, une loi reconnaissant le statut de langue régionale avait été votée. Cela concernait le russe, le roumain, le moldave et le hongrois. C'est ainsi qu'à Sébastopol, Kharkiv, Odessa et Donetsk, entre autres, le russe avait acquis le statut de langue régionale. Le 23 février 2014, le Parlement va se prononcer pour l'adoption d'une loi fixant la date de fin de la loi sur les langues régionales. Même si les députés se ravisèrent sous la pression d'une tentative de déstabilisation orchestrée depuis Moscou, il était trop tard. L'affirmation par le Parlement que la loi sur le statut des langues régionales ne serait pas supprimée ne changea rien. Fin février, un maire pro-russe est imposé dans la ville de Sébastopol. Le 4 mars 2014, Vladimir Poutine prend la parole et déclare que Viktor Yanukovych n'a plus d'avenir politique. La mise au rebut d'un président qui était pourtant ouvertement pro-russe ne signifie pas, bien au contraire, que la Russie accepte que l'Ukraine rejoigne le camp européen. Moscou a en effet observé de très près les crispations autour de ces enjeux linguistiques. Profitant de ces tensions et de la relative fragilité du nouveau gouvernement, le Kremlin a mis au point un plan de déstabilisation assez diabolique. Dès le 27 février, des hommes habillés en vert prirent position autour des aéroports et des bases militaires de la région. Certains avaient aussi investi des structures gouvernementales régionales. Pour la plupart, ces hommes étaient des soldats, mais il y avait aussi des membres des services de renseignement russes. La population d'origine ukrainienne ou tatare s'éleva contre cette occupation, mais le rapport de force avec les russophones n'était pas en leur faveur. Le fonctionnement du Parlement ukrainien est alors verrouillé par le Parti des régions de l'ex-président Viktor Yanukovych. Et le référendum qui est organisé dans la foulée se fait dans une région militairement occupée et en l'absence de tout contrôle indépendant. C'est sur la base de ce référendum que Poutine a signé le décret conduisant à ce que l'on peut appeler une annexion pure et simple de la Crimée. Mais ce geste a aussi une portée à destination du peuple russe. Poutine a en effet parlé de « notre Crimée », célébrant ce rapprochement comme naturel et renvoyant à la conquête de la Crimée en 1783. On le voit, le nationalisme fondé sur une nostalgie de la puissance tsariste ou soviétique est clairement convoqué. La Révolution orange, si elle est vue en Europe comme un élan pour la démocratie, révèle aussi les points de fracture au sein de l'Ukraine. S'il serait exagéré de dire que l'ouest du pays est pro-européen et que l'est est pro-russe, il est clair néanmoins qu'une partie de la population ukrainienne est d'ascendance russe et qu'un trop grand rapprochement avec l'Europe leur fait craindre d'être des laissés pour compte au sein de cette nation. Le fait que le statut régional de la langue russe ait été menacé par un gouvernement pro-européen a clairement motivé un réflexe identitaire dans cette frange de la population. Moscou ne s'est pas privé d'exploiter l'événement en orchestrant une propagande visant à décrire le nouveau gouvernement ukrainien comme autoritaire et hostile à la Russie. Il s'agit là peut-être de convoquer ce que Vladimir Fedorovski appelle le sentiment de la forteresse assiégée. Si les Russes conçoivent que leur pays est fort, certains perçoivent aussi parfois des menaces venues de l'extérieur. On voit en tout cas que ce qui se passe en Ukraine ne relève pas uniquement d'un duel entre la Russie et l'Europe, mais a aussi de forts liens avec la politique intérieure russe. Moins d'un mois plus tard, un scénario assez proche de ce qui s'est passé en Crimée se produit au Donbass. Le 7 avril, un groupe pro-russe s'empare du bâtiment gouvernemental à Donetsk et annonce pour le 11 mai la tenue d'un référendum d'autodétermination. Durant le mois d'avril, plusieurs villes de la région vont connaître les mêmes faits. Des manifestants pro-russes, souvent lourdement armés, vont s'emparer de bâtiments abritant la police ou les institutions régionales. Le pire est que l'armée ukrainienne en pleine réorganisation n'a pas les moyens de se déployer efficacement contre ces tentatives de déstabilisation, qui portent assez clairement la signature du Kremlin et de Poutine. Parallèlement à ces sortes de coups d'État régionaux, la Russie déploie plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine. Si l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et l'Europe parviennent à trouver un accord signifiant que toute force militaire ou paramilitaire irrégulière opérant sur le territoire ukrainien est considérée comme illégale, les séparatistes pro-russes de Donetsk affirment qu'ils ne se sentent pas concernés par cet accord. Ils ne sont pas désavoués par Moscou. De fait, dans d'autres villes, les déstabilisations pro-russes continueront. Ce qui semblait à l'époque être un double langage tenu par Vladimir Poutine va quelques années plus tard se transformer en une véritable guerre à mesure que l'Ukraine et l'Europe manifesteront des signes de rapprochement. Cette guerre, dont on dit souvent qu'elle se déroule aux portes de l'Europe, marque assurément la modification de l'ordre mondial hérité de l'effondrement de l'URSS. Ce conflit, qui a peut-être surpris dans une Europe qui s'était habituée à la paix, trouve en fait ses ramifications dans l'histoire russe de ces 30 dernières années et de l'héritage de la fin de l'URSS. On le voit, c'était une erreur d'imaginer que la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques signifiait la disparition du désir impérieux d'une Russie puissante et conquérante. Les Ukrainiens payent-ils seulement la violence de l'expansionnisme russe ou aussi l'imprudence européenne d'avoir sous-estimé la détermination d'une partie de la nation russe, qui voit en Poutine un condensé du tsar et du premier secrétaire du parti? Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur la page de l'émission sur le www.radiocampusparis.org pour écouter les podcasts de toutes nos précédentes émissions.